VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Mali, 3 militaires maliens tués et 2 autres blessés aujourd'hui par des djihadistes dans la région de Tombouctou dans le nord-est du pays, selon des sources militaires maliennes. 3 de nos hommes ont péri entre les localités de Tombouctou et Goundam quand leur véhicule est tombé dans une embuscade, a déclaré à l'AFP un officier de l'armée malienne en poste à Tombouctou. Auparavant, toujours ce vendredi, 2 casques bleus de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, avaient été tués et 30 autres blessés lors de l'attaque d'un camp onusien par les djihadistes à Kidal, dans le nord du pays. Les 2 casques bleus abattus sont membres du contingent guinéen et parmi les 30 blessés, 7 sont dans un état grave, a également précisé un militaire guinéen de la MINUSMA. Pour plus d'informations sur cette attaque, Mariam Traoré a contacté Asika Dey, un confrère qui se trouve à Kidal.
Le camp de la MINUSMA à Kidal a été l'objet d'une attaque ce matin à partir de 6h GMT. On a été attaqué par une pluie, disons, de missiles. Certains ont dénombré jusqu'à 11 missiles, donc, sont tombés à l'intérieur du camp.
C'était des gens à la peau blanche ou c'était des noirs?
Par rapport à la couleur, je ne saurais le dire. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est des attaques de ce sens font souvent l'étiquette de système djihadiste. Depuis un certain temps, ce sont eux qui attaquent à ces heures pareilles. Mais par rapport en tout cas aux hommes qui ont mené l'assaut, jusque-là, on n'a pas pris connaissance de quelle couleur ils sont et de quelle ethnie ils sont jusqu'à présent. Parce que réellement, tout s'est passé à l'intérieur du camp là-bas. Et le camp, nous n'avons pas du tout accès au camp, surtout en pareilles circonstances.
Asika Dey, un confrère à Kidal, dans le nord du Mali. Procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré à Dakar au Sénégal. Les plaidoiries se terminent en principe aujourd'hui et le verdict sera annoncé vers le mois de mai. Hier, le procureur du tribunal spécial africain qui juge l'ancien président a requis la prison à perpétuité pour Hissène Habré. Une condamnation à hauteur de ses crimes, a souligné le procureur Mbacké Fall. Depuis l'ouverture de son procès le 20 juillet 2015, Hissène Habré, qui a été amené de force devant le tribunal, est resté muet. Écoutons la réaction de son avocat maître François Serre par rapport au procès en cours.
La défense du président Habré a toujours clamé que c'était un procès inéquitable. On a prétendu créer une juridiction internationale qui viole tous les standards internationaux. On n'a pas appliqué un règlement de procédure internationale qui permettait aux avocats de la défense d'aller faire des enquêtes, par exemple au Tchad, comme ça s'est passé dans l'affaire Gbagbo devant la CPI, où les avocats du président Gbagbo sont allés en Côte d'Ivoire. Ma sécurité personnelle était en fait menacée au Tchad. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une enquête qui a été totalement manipulée par les ONG, notamment Human Rights Watch. En plus, on a pu constater qu'il y avait eu des éléments qui ont corrompu le procès, puisque les juges d'instruction ont reçu des sommes d'argent de la part du régime du président Déby. Ce qui, normalement, comme vos auditeurs américains pourraient le comprendre, suffirait aux États-Unis à arrêter un procès. Le président Déby a contrôlé ce procès puisqu'il en a été le financier.
Maître François Serre, avocat d'Hissène Habré à Dakar. Au Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 28 février a été reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'ayant pas été distribuées selon la Cour constitutionnelle béninoise. Plusieurs candidats de l'opposition avaient réclamé ce report à cause de retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4 600 000 électeurs. Au total, 33 candidats sont en lice pour cette élection. RCA, c'est à minuit que s'achève la campagne électorale pour le second tour des législatives et de la présidentielle prévue dimanche 14 février. La présidentielle mettra aux prises les anciens premiers ministres Anis et Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Tout est-il prêt pour que les différents scrutins se déroulent de manière équitable et transparente? La réponse du porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Julius Ruffin Ngouandé-Baba.
Nous avons pris toutes les précautions, tout le matériel a été déployé. Et les bulletins aussi sont déjà au niveau des centres de vote. Donc, pour nous, tout est prêt pour que le scrutin de dimanche se tienne dans de bonnes conditions.
Voilà, c'était le porte-parole de l'Autorité nationale des élections de Centrafrique, Julius Ruffin Ngouandé-Baba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, la police congolaise nie avoir brutalisé des journalistes mardi à l'occasion de l'arrivée dans la capitale d'un candidat à la présidentielle du 20 mars, comme l'en accuse l'Organisation de défense de la presse Reporters sans frontières. « Je n'ai aucune connaissance de ces agressions », a déclaré aujourd'hui à l'AFP le colonel Jules Moncala Tchoumou, porte-parole de la police congolaise. RSF a accusé hier la police d'avoir sévèrement frappé une dizaine de journalistes congolais qui attendaient l'arrivée de l'avion du général Jean-Marie Michel Mokoko à Brazzaville. Ce dernier, le représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique, a démissionné début février de son poste de conseiller pour les questions de paix et de sécurité auprès du président congolais Denis Sassou Nguesso pour se présenter contre lui à la présidentielle du 20 mars. Interrogé par l'AFP après les événements de l'aéroport, le général Mokoko a accusé les policiers de l'avoir caillassé dès sa descente d'avion, le contraignant à quitter les lieux en toute précipitation. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a nommé au poste de vice-président son ennemi juré Riek Machar, chef de l'ex-rébellion, pour se conformer à l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 années de guerre civile. Les détails avec Anne Albertson.
M. Machar avait déjà été le vice-président de M. Kiir entre 2005 et 2011, quand le Soudan du Sud n'était encore qu'une région semi-autonome au sein du Soudan, puis entre juillet 2011, après l'indépendance, et juillet 2013, quand il avait été démis de ses fonctions. « C'est une bonne nouvelle parce que c'est un pas en avant dans l'application de l'accord de paix », a déclaré à l'AFP M. Machar, qui s'exprimait depuis l'Éthiopie. M. Machar n'a toujours pas mis les pieds à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, depuis la signature de l'accord de paix le 26 août 2015. Cet accord n'a pas empêché les combats de se poursuivre et les deux camps s'accusent mutuellement de ne pas le respecter. Le conflit a débuté dans la capitale, Djouba, lorsque M. Kiir, un Dinka, a accusé son ancien vice-président, de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est moqué aujourd'hui des députés de l'opposition qui ont perturbé la veille son discours annuel sur l'état de la nation au Parlement. Ils ont montré à quel point ils ne comprennent pas comment fonctionne la démocratie, a souligné le chef de l'État lors d'un débat à la télévision publique au lendemain de ces incidents. Plus de précisions sur les protestations des députés hier avec Michel Joseph.
Ces députés ont quitté le Parlement en scandant des slogans anti-Zuma dans le genre « Zupta doit tomber », jeu de mots en référence au lien étroit entre Jacob Zuma et les Gupta, de richissime homme d'affaires d'origine indienne, soupçonné d'avoir une influence directe sur le pouvoir sud-africain. Et Julius Malema, le soi-disant enfant terrible du parti combattant de la liberté économique, a ignoré les rappels à l'ordre pour crier « Zuma ne mérite le respect de personne. Il nous a volé, il a corrompu l'économie de l'Afrique du Sud, il a transformé ce pays en blague. Nous ne le connaissons pas comme notre président. » Quelques heures avant le discours de M. Zuma, des échauffourées avaient éclaté entre quelques centaines de partisans de Malema et la police. Une accusation d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla, du nom de la résidence privée du président sud-africain et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de 2 ministres des Finances en décembre, alimentent depuis 10 semaines une campagne « Zuma doit tomber ».
Course contre la montre dans la lutte contre la fièvre Zika, le Brésil a conclu un accord avec une université américaine pour la mise au point de vaccins dans un délai de 12 mois. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Castro, a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que son gouvernement entend investir 1,9 million de dollars dans un partenariat entre l'Université du Texas et l'Institut Evandro Chagas du Brésil. Par ailleurs, le Brésil a conclu un accord de coopération avec les centres américains de contre et de prévention des maladies, les CDC, et cherche à faire de même avec le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, a révélé le ministre brésilien. Le développement d'un vaccin sûr et effectif est d'une importance immédiate, a souligné de son côté le directeur des CDC, Thomas Frieden. Frieden et d'autres responsables américains de la santé qui témoignaient devant une commission sénatoriale ont expliqué que les efforts de lutte contre la fièvre Zika doivent s'orienter en grande partie sur le contrôle des moustiques vecteurs de la maladie. Le sud des États-Unis, notamment les États de Floride et du Texas, ainsi que le territoire américain de Porto Rico, abritent ce genre de moustiques, ont-ils averti.
Et pour terminer, du nouveau sur le conflit en Syrie, les États-Unis et la Russie sont tombés d'accord sur une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine afin de relancer le processus de paix et de stopper l'exode des civils. Les deux pays et leurs principaux alliés ont aussi décidé un accès accru et immédiat de l'aide humanitaire aux civils en détresse. Merci de